Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, en ce début de saison, une saison que nous espérons aussi riche que les précédentes, nous allons parler du transhumanisme dans ce numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Nous allons vers une société fonctionnelle où l'individu se transforme en segment technique et devient pour ainsi dire une pièce détachée d'un immense puzzle technologique. Écrit dans son livre fort intéressant, notre invitée Béatrice Jousset-Couturier. Idée, un magazine qui en toute saison vous donne à réfléchir, une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur notre site et podcaster rfi.fr. Bonjour Béatrice Jousset-Couturier.
Monsieur Deldic, bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes une scientifique de formation. Personne n'est parfait, pas une philosophe. Mais votre réflexion, votre synthèse dans votre livre « Le transhumanisme, choix ou une réalité » publié chez Erol est très passionnant. Vraiment, on apprend beaucoup de choses. C'est un état des lieux et c'est un livre qui nous donne aussi des perspectives de réflexion. Vous êtes docteur en pharmacie, diplômé en droit de la santé et en bioéthique. Et nous allons, grâce à vous, essayer de faire le point sur cette grave question essentielle du transhumanisme. Vous écrivez dès le début du livre, Béatrice, il s'agit moins de comprendre comment la technologie va changer notre quotidien que de comprendre comment elle va transformer notre nature humaine. Il ne s'agit pas simplement de réparer, il s'agit de créer. Autre chose.
Alors, il s'agissait de réparer. Maintenant, nous sommes dans l'amélioration. Et l'amélioration va peut-être amener à la transformation. Oui, c'est vrai. Je pose cette question et cette phrase en début du livre parce que je crois qu'il est tout de suite important de se dire, mais si on veut vivre plus longtemps, ne va-t-on pas changer de nature humaine en 100 ans? Déjà, entre l'enfance, l'adolescence et la vieillesse, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Qu'en sera-t-il lorsqu'au bout de 200 ans, il vous faudra choisir peut-être une personnalité, une vue, une vie, un pays, un horizon, une autre planète.
200 ans.
Pourquoi pas?
Ah, je ne veux pas trahir de secret, Béatrice Jousset-Couturier, vous portez des lunettes, je porte des lunettes. Sommes-nous des transhumains?
Oui, nous faisons partie des transhumains. Mais je dirais que le transhumanisme peut-être est le propre de l'homme, puisque depuis qu'il est sur cette terre, depuis qu'il évolue, il va vers une transformation. Alors la transformation, au début, s'appelait amélioration. Mais je dirais que c'est intrinsèque à l'être humain de vouloir s'améliorer, et il ne cesse de le faire.
Alors l'être humain qui s'améliore, qui peut donner naissance à un autre être humain, là je pose la question, et aux robots aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, entre Homo sapiens et Homo erectus, je pense qu'il n'est point besoin de dessin pour voir qu'il y a une grosse différence entre notre ancêtre et nous-mêmes. Alors maintenant, imaginons, avant de s'imaginer robot,
Homo robotus,
on peut s'imaginer cyborg, homme-machine.
Oui. Alors, ce qui frappe en lisant votre livre, donc je rappelle que vous avez fait un point sur la question, c'est une thèse en fait, hein, votre livre, c'est une thèse que vous avez traduite en français, si j'ose dire.
Oui, c'est exactement ça. Je ne sais pas si je peux dire comment m'est venue cette thèse.
J'aime connaître la logique des auteurs.
Qu'elle est importante peut-être pour les lecteurs. Oui. Parce que je me mets tout à fait à la place de toutes les personnes qui écouteront cette émission ou qui liront ce livre ou qui même un jour liront ce mot dans une revue. Voilà, je préparais cette thèse et un jour j'ai été invitée par une de mes amies à une conférence sur éthique et biologie. Conférence fort intéressante et d'un seul coup, on nous a parlé de Google, on nous a parlé de ses implications, on nous a parlé d'un sixième continent, on nous a parlé de choses qu'on pouvait même pas imaginer avec nos téléphones portables, avec la biologie, avec l'éthique, avec tout ce qui se faisait. Et un mot a conclu. Je dirais ce tour d'horizon qui était transhumanisme. Bien sûr, la conférence n'était pas sur le transhumanisme, mais voilà d'où m'est sortie cette idée, parce que je me suis dit, ce mot, je ne le connais pas, mais tout le monde est pour ce qu'il apporte. Et sans le savoir.
Ouais. Donc on va revenir sur ce que signifie transhumanisme sur le fond, mais il faut préciser pour le moment, même si c'est quelque chose qui va très vite et qui se développe à la vitesse grand V, il s'agit d'une affaire concernant une élite.
Oui, pour l'instant, ça concerne une élite, mais de plus en plus, on peut peut-être pas parler encore d'explosion exponentielle, mais enfin c'est une explosion quand même dans les milieux scientifiques et technologiques et qui est de plus en plus importante et qui ne s'arrêtera pas et qui ne peut pas s'arrêter. C'est surtout ça qu'il faut que les gens aient bien en conscience. Même si quelqu'un disait un jour stop, ce n'est pas possible.
Ouais. Alors effectivement, même si ça pose de redoutables questions sur le plan de l'éthique, là aussi on en reparlera.
Oui, hein. Ouais. Éthique, de société, politique. Je crois que le mouvement touche tous les domaines, même s'il est né, on peut peut-être en dire quelques mots, des origines.
Alors justement, je voulais d'abord donner une définition que vous donnez dès le début du livre, Béatrice Jousset-Couturier. Le transhumanisme est un mouvement philosophique et scientifique qui veut utiliser tous les moyens mis à la disposition de l'homme par la technologie pour améliorer l'espèce humaine, augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance et en finalité faire naître le post-humanisme, donc le post-humain. C'est là que les questions deviennent graves. À quel moment est né véritablement ce mouvement donc ?
Alors cette définition que vous donnez est effectivement celle qui est reprise par les extropiens, c'est-à-dire les transhumanistes américains et Max Moore en particulier. Alors maintenant, là je vous donne un tout petit scoop. Parce que le Larousse, en 2017, va en donner sa définition, qui est fortement inspirée de toutes les façons de cette première définition de Max Moore, et qui est transhumaniste, donc non masculin, et un mouvement prônant l'utilisation des technologies pour améliorer l'être humain, entre parenthèses, intellectuellement et physiquement.
Ouais.
Voilà, donc moins vieillir, moins souffrir, moins mourir.
C'est un peu minimaliste comme définition.
C'est très minimaliste, ce qui fait que ça ouvre le champ des possibles, mais vous retrouvez tous les mots principaux qui sont repris dans cette définition. Et cette définition sera donc dans le Larousse 2017.
17. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, dès la naissance de ce mouvement, transhumanisme est une affaire américaine ?
Oui, c'est une affaire américaine. Elle est née donc aux États-Unis dans les années 50. Elle est née principalement du milieu geek, du milieu technologique, du milieu scientifique. Et très vite, elle a rallié à sa cause des penseurs et des futurologues, principalement. Max Moore étant l'un des premiers à s'y être intéressé.
On va revenir sur les différents courants que connaît le transhumanisme. Ouais.
Oui, ouais. Et j'essaierai de le simplifier un petit peu pour la compréhension. Et le premier, peut-être, on peut le dire, à avoir utilisé le mot, est donc Julian Huxley, qui est le frère de Adults,
ah oui,
et qui l'utilisait, mais parce qu'on était en pleine période de conquête de l'espace. Et il l'avait utilisé pour désigner un petit peu les interactions entre un astronaute et toute la technologie qui lui permettait donc d'aller les premiers pas sur la Lune, ne serait-ce même que de dépasser la stratosphère.
Avec l'apparition de l'ordinateur, enfin de l'utilisation de l'ordinateur.
Tout à fait, ouais, ouais. Voilà. Donc c'est la première fois où est apparu ce mot, en 1957. Ensuite, on peut dire que le mouvement a été vraiment créé en 1990, et qu'en autour des années 1998, c'est un mouvement mondial qui s'est créé et qui a créé la World Association Transhumanisme.
Parce que ça, c'est la technologie qui a permis cela, j'imagine.
Oui, c'est complètement le milieu technologique qui a permis cette création. 10 ans après, elle a pris sa forme actuelle, parce que je pense que c'est ça qui est le plus intéressant, et qui est Humanity Plus. Humanity Plus, qui est actuellement donc présidée par Madame Vita Moore aux États-Unis.
Et qui, vous le dites dans son livre, qui est un véritable lobby.
Effectivement, on peut dire que le cœur, je dirais, de cette création pourrait être représenté par Google, puisque le mot est lâché, il faut bien en parler. C'est lui qui cristallise tout ça. Parce que, oui, c'est le moteur de recherche que tout le monde connaît, mais c'est aussi beaucoup de sociétés technologiques, scientifiques, hyper spécialisées dans plusieurs domaines, qui regroupent beaucoup de start-up et qui devient complètement tentaculaire. Par exemple, à la tête de la recherche de Google et de ses développements est un homme qui s'appelle Ray Kurzweil et qui est, entre guillemets, le pape du transhumanisme américain. Ouais. Donc là, oui, vous êtes au cœur avec Google. Alors, on parle de Google parce qu'effectivement, tout le monde le connaît. Maintenant, la pieuvre est en train d'étendre ses tentacules. Et
tout se passe en quelque sorte en Californie, non ?
C'est principalement en Californie. Alors, il faut quand même pas oublier deux autres pays qui sont la Corée du Sud, qui est très très proche, et la Chine, qui commence à se battre, par exemple, contre Google, avec son moteur de recherche qui essaye de concurrencer Google maintenant, qui s'appelle Baidu. Et ils investissent des millions et des milliards de dollars pour pouvoir contrer Google. Mais contrer Google veut dire multiplier aussi les efforts que va faire Google pour se défendre contre cela, ce qui va démultiplier encore les possibilités et les forces.
En tous les cas, Homo, c'est ce que vous écrivez, Homo sapiens 2.0 pourrait bien devenir la première espèce libre, entre guillemets, au sens où il échapperait aux incertitudes de la sélection naturelle. On en est là, hein.
Oui, tout à fait. Puisque un des grands leitmotifs du transhumanisme, c'est de dire pourquoi ne pas préférer le choix au hasard.
Donc c'est créer un nouvel homme.
Pour l'instant, oui, créer un nouvel homme, l'amélioration ira forcément vers la création de quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, on est plus quand même encore dans le domaine scientifique de la transformation.
Béatrice Jousset-Couturier, ce qui frappe dans ce mouvement du transhumanisme, c'est la multiplicité des courants. Vous l'abordez dans votre thèse, donc dans votre livre désormais. Alors, on va pas tous les citer. Vous dites qu'il y a, d'ailleurs, l'un des deux a déjà été cité dans votre bouche. Il y a deux courants majeurs, les extropiens et les singularitariens. Cela mérite évidemment une explication. Extropiens.
Oui, alors je vais vous simplifier encore la tâche. Je dirais qu'il y a effectivement trois grands mouvements. Les bioconservateurs regroupent tous les mouvements qui sont contre. Il y a les techno-progressistes et qui regroupent effectivement une partie des extropiens. Et ce sont, je dirais, la partie modérée. Et il y a en troisième lieu, effectivement, les singularitariens qui, eux, vont beaucoup plus loin. Et c'est le mouvement, je dirais, un peu extrême et celui qui est défendu par Ray Kurzweil et par le courant dominant américain.
Et les extropiens ? De qui s'agit-il ?
Alors, les extropiens, eux...
Ce nom m'intrigue.
Extropie, oui. Alors, c'est ceux qui veulent tout remettre dans l'ordre. C'est l'inverse de l'entropie qui est le désordre général. Les extropiens, c'est le premier... mouvement qui a été créé donc par Max Moore, c'est lui qui est à l'origine du mouvement mondial transhumain. Mais après des petites dissidences, je dirais à l'intérieur de ce mouvement autour des années 2006, il y a eu une séparation et s'est créé à ce moment-là en 2008 Humanity Plus qui est l'actuel mouvement américain.
Et aujourd'hui, dans les années 2016-2017, les choses s'accélèrent. Ça, oui. Pour simplifier, je dirais que ça bouge tous les jours.
Oui, ça bouge tous les jours. Ça bouge même au rythme des découvertes scientifiques, très certainement. Ça explose de tous les côtés et je crois que l'augmentation d'Internet, de la puissance de nos ordinateurs, a ouvert une boîte de Pandore, a ouvert un... Tous les possibles sont maintenant à la portée de la main des scientifiques et des techniciens. Et donc, on arrive à tout imaginer.
Donc, il s'agit, on a bien compris le mouvement général, il s'agit très concrètement, sans entrer dans les détails de la science, Béatrice Jousset-Couturier, de refaire l'homme atome après atome.
Alors exactement, le premier à en avoir parlé est Friedman, qui a été un des premiers à dire « le monde va changer lorsque l'on pourra le manipuler atome par atome ». Et de là est un petit peu venu ce que l'on appelle maintenant la révolution NBIC, parce que lorsqu'on parle de transhumanisme, on ne peut pas passer à côté de ces quatre initiales, NBIC, et la nanotechnologie en particulier, c'est-à-dire le 10 puissance moins 9 mètres, là vous êtes au niveau de l'atome.
Vous allez trop vite pour moi, Béatrice Jousset-Couturier, il faut s'arrêter sur cette révolution NBIC, de quoi s'agit-il?
Alors, on peut peut-être déjà définir les quatre initiales, donc N, nanotechnologie, c'est-à-dire que là on se trouve au niveau du calcul, mais au niveau de l'atome, oui. 10 puissance moins 9 mètres. B, biotechnologie. Quand on parle de biotechnologie, c'est surtout ce qui se passe au niveau du génie génétique, au niveau de la manipulation génétique. I, c'est informatique. Là, on est complètement dans le domaine de la technologie, de nos ordinateurs, des algorithmes, de tout ce qui se fait au niveau informatique. Et C, c'est le cognitif, c'est-à-dire les sciences
cerveau.
Du cerveau. Oui. Voilà, parce que ça, c'est le domaine le plus exploré par les transhumains en particulier.
Alors, c'est autour de cette révolution NBIC que s'activent tous ceux dont on parlait tout à l'heure en Californie ou ailleurs, qui travaillent sur ces différents domaines.
Exactement, parce que l'informatique booste les recherches. Et à chaque fois qu'il booste quelque chose dans le génie génétique, cela retombe sur les quatre autres domaines. Et c'est pour ça qu'on parle de convergence. Les uns et les autres sont liés. Et dans ces quatre domaines travaille par exemple Google. Il ne faut pas le sous-estimer.
Alors que fait Google dans cette affaire?
Eh bien Google, c'est le grand Manitou. C'est-à-dire qu'il a entre les mains la technologie, il a les finances, il a les penseurs transhumains, il a l'adhésion de tous qui aujourd'hui n'utilisent pas le moteur de recherche Google. Et chaque fois que vous, que moi, que tous ceux qui nous écoutent appuient sur le bouton, ils enrichissent les bases de données de Google. Et c'est un cercle vicieux. On en reparlera un petit peu plus tard.
J'en profite
si
pour dire qu'il y a d'autres moteurs de recherche que Google, même si celui-là est évidemment le plus connu. Nous allons marquer une pause. Béatrice Jousset-Couturier, on va en revenir aux choses plus concrètes dans l'actualité de ces derniers jours. Et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler donc du transhumanisme. A tout de suite.
Merci. So hold me, mama. In your long arms, your petrochemical arms, your military arms, in your electronic arms. Careful.
Suite. Nous parlons du transhumanisme dans ce numéro du magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de Béatrice Jousset-Couturier qui nous propose une synthèse sur cette question ô combien importante, sur cette question essentielle, dans un livre qui s'intitule « Le transhumanisme » publié aux éditions Erol. De l'homme réparé, nous allons vers l'homme augmenter, écrit-elle. Alors, pour reprendre ce magazine et commencer cette deuxième partie d'idées consacrée donc au transhumanisme, est-ce qu'on peut résumer l'idée principale du transhumanisme ?
Oui.
Parce qu'on a parlé des courants tout à l'heure, mais quel est le but ultime ?
Le but ultime, c'est avant tout repousser l'échéance de la mort, c'est-à-dire moins vieillir, mais tout ça en bonne santé. Ça, c'est fondamental et c'est les bases de la pensée transhumaniste. Moins vieillir, vivre donc beaucoup plus longtemps, mais en bonne santé. Donc quand on a dit ça, on a tout dit. Alors l'homme éternel n'est pas encore né, hein. Ça, il faut sauter ça de la tête, ça ira forcément par étapes.
Alors quand on a dit ça, on a tout dit, dites-vous Béatrice Jousset-Couturier, pas tout à fait quand même, parce que cela implique plein de choses, à savoir, je le répète, on a commencé à en parler dans la première partie, un homme qui n'est plus réparé, mais un homme qui est créé. On le disait à l'instant, hein, avant le flash, atome par atome.
Oui, tout à fait, mais avant cela, on va passer par des étapes intermédiaires, et on est dans ce moment de la transformation. Alors effectivement, on peut parler d'augmentation, mais par exemple, lorsque l'on est vacciné, n'est-on pas déjà un homme augmenté ? Nous avons apporté de l'extérieur quelque chose qui peut nous changer. Donc il faut faire très attention aussi à l'utilisation de ces mots. Et avant de dire que l'homme sera complètement différent, il va se passer quand même beaucoup d'années.
Mais vous parlez de vaccination qui est devenue un geste banal et critiqué d'ailleurs aussi aujourd'hui. Certains parents refusent de vacciner leurs enfants, par exemple. Il y a évidemment une forte contestation, des questions philosophiques qui sont liées à cette question du transhumanisme. Il faut rappeler que là, il s'agit de modifier l'ADN qui constitue la personnalité de chacun.
Alors, il faut bien avoir en tête que l'ADN n'est pas la seule chose qui fait votre personnalité.
Vous me soulagez, là.
L'ADN n'est qu'une composante de vous-même. Et il y a deux autres choses qui entrent en ligne de compte, qui est votre histoire. Mais quand je dis histoire, c'est votre histoire depuis Homo erectus. Et l'environnement dans lequel vous vivez. Par exemple, et je crois que je le cite, et c'est Laurent Alexandre qui l'a cité avant moi, « Penser modifie votre cerveau et votre cerveau se modifie ». Tout ça pour dire que, je prends un exemple simple pour que ce soit compréhensible, des jumeaux, je parle de vrais jumeaux, sont différents, pensent différemment. Ils ont le même ADN de base, mais l'éducation, leur environnement, les émotions, tout ce qui arrive de l'extérieur et que l'on appelle l'épigénétique fait ce que vous êtes, fait votre personnalité. Donc, voyons le côté, je dirais, positif, parce qu'il faut quand même qu'il y ait du positif qui ressorte de tout ce que l'on est en train de dire au niveau de l'ADN. Et c'est principalement, quand on parle de manipulation, ça fait très peur, mais c'est en fait, parlons de réparation de nos segments d'ADN, principalement pour guérir, et c'est les axes principaux de recherche, les maladies génétiques.
Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui.
Pas complètement, mais il y a de très très gros budgets de recherche qui sont entamés dans ce domaine. Oui, il y a des choses que l'on sait faire, mais appliquées à des souris et pour que cela marche, et ensuite aller vers l'homme, il y a encore du chemin à faire.
Alors, en lisant votre livre, Béatrice Jousset-Couturier, j'ai appris qu'il y avait une déclaration transhumaniste signée en 1999. Son point numéro 4 dit ceci. Les transhumanistes prônent le droit moral pour ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leur capacité physique, mentale ou reproductive et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons, lit-on dans cette déclaration, nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. C'est une déclaration qui pose des questions redoutables sur le plan philosophique, pour ne pas dire religieux.
Oui, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, on peut même se dire, bon, jusqu'où veulent-ils aller ? Et là, ça me fait penser peut-être aussi à une certaine forme, bon, d'eugénisme. Pour l'instant, effectivement, dans la déclaration, il ne s'agit que de personnel. Mais l'eugénisme, alors, le mot est lâché, il faut bien le dire, lorsqu'on parle d'eugénisme, ça y est, on se retrouve plongé dans le milieu hitlérien de la dernière guerre mondiale et de ses atrocités.
À juste titre.
À juste titre. Les transhumanistes s'en défendent. Pour eux, cette forme, bon, d'eugénisme est plus égalitaire et quelque part morale. Et ils sont complètement dans ce que vous venez de citer et qui est leur grand leitmotiv, c'est-à-dire la liberté individuelle. C'est-à-dire en aucun cas, et ça c'est quand même la grosse différence qu'il faut souligner, il ne s'agit d'un eugénisme étatique et discriminatoire. Il reste dans un objectif de réparer et non pas de détruire.
Alors ça, c'est le discours, ce sont les propos que peuvent tenir des gens qui ont de nobles idéaux, des scientifiques qui tentent de faire progresser l'humanité, justement, Béatrice Jousset-Couturier. Ça me fait penser aux inventeurs de la bombe atomique. C'était sans doute une invention scientifique considérable. On a vu les résultats que ça a donné,
oui,
déjà. Donc, il faut aussi penser aux conséquences possibles de cet eugénisme dans les mains de pouvoirs politiques qui n'auraient pas vraiment des pensées positives, pour parler comme certains.
Eh bien oui, toute technique a le revers de sa médaille. Et c'est effectivement dans quelles mains tomberont ces technologies. Alors vous parliez effectivement de la bombe atomique, mais cela a-t-il arrêté les recherches dans le nucléaire? Non. Donc je crois que il faut effectivement que les politiques s'emparent de la question et qu'il est grand temps de comprendre, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, tout ce qui se passe en ce moment, et peut-être de commencer à le maîtriser et à le réguler.
Parce que pour l'instant, soyons clairs, ce n'est absolument pas le cas.
Non, au niveau politique, absolument pas.
Les politiques sont totalement absents de cette réflexion.
Pour l'instant,
et n'ont aucune
oui.
prise sur les événements.
Non, aucune. La technique et la science a créé un biopouvoir. C'est eux, pour l'instant, qui dirigent un petit peu ce monde. Parce que là, je crois que c'est un mot qui revient, bon, peut-être souvent dans mes paroles, mais la mondialisation des idées, des techniques, de tout ce qui se passe. Vous pouvez pas claquer des doigts dans une partie du monde sans que le reste de la planète ne soit mis au courant de ce qui se passe. Et ça, c'est le premier des grands dangers ou des grands espoirs. Ça dépend si on prend le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein.
Alors, deux remarques peuvent se faire les auditeurs en ce moment même, et qui vous écoutent sans doute avec beaucoup d'attention, Béatrice Jousset-Couturier. Les entreprises que vous avez citées pour cette révolution NBIC, ce sont des entreprises privées. Où sont les États? Où est la puissance publique, comme on dit en français? Ça, c'est ma première remarque. Que répondre à ceux qui disent cela?
Bien, pour l'instant, oui. Ce sont des entreprises privées, dirigées principalement par beaucoup de capitaux privés, d'énormes entreprises, sans qu'il n'y ait absolument aucun contrôle des États. Et je dirais même que parfois, et vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement, puisque c'est le gouvernement qui s'est adressé à eux, je ne reciterai pas cette société, pour déverrouiller des téléphones de terroristes. Donc effectivement, les États, pour l'instant, se trouvent hors course.
C'est ça.
Ils
alors,
ont une vue pour leurs prochaines élections, mais pas pour les 30 ans à venir et les nouvelles générations. Ça, c'était le grand leitmotiv de Churchill.
Ça, je trouve ça effrayant, Béatrice Jousset-Couturier, parce que la révolution du transhumanisme, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, c'est comme si, de toute façon, on disait « j'aime pas le vent » ou « le vent souffle de toute façon », mais se développe à la vitesse grand V de son côté, avec des entreprises puissantes, des entreprises privées, sans que le politique, sans que les États puissent dire quoi que ce soit. Et il y a aussi cette réflexion qui est plutôt d'ordre philosophique. On a fait il y a un moment maintenant dans cette émission, on a consacré une émission, un numéro d'idées à Jacques Ellul. Et Jacques Ellul est très présent dans votre livre parmi les critiques de ce phénomène. Voilà effectivement la technique qu'il avait appelée la technologie, qui devient autonome, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est la puissance actuelle des algorithmes. Et le dernier exemple, qui est très présent certainement dans les esprits de chacun, c'est cet ordinateur qui a gagné contre le meilleur joueur au monde de Go. Et pourquoi c'est extraordinaire ? Parce que par rapport à celui qui avait gagné, par exemple, sur le joueur d'échecs, là, il s'est agi d'une machine qui a auto-appris. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement emmagasiné dans son petit ventre des méthodes de calcul et des méthodes pour résoudre des problèmes. Elle est capable, à elle, toute seule, de produire plus que ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire que c'est une forme d'auto-apprentissage. Là, on est en train d'aller doucement vers effectivement la peur de certains, qui est une intelligence artificielle appelée forte, c'est-à-dire avec une conscience et des émotions. C'est comme ça que l'on différencie intelligence artificielle faible et intelligence artificielle forte.
Donc le transhumanisme, en voulant changer la vie de l'homme, allonger sa vie de façon quasiment éternelle, c'est le but, finit par créer de nouveaux hommes qu'on peut baptiser aussi robots, qui eux-mêmes créeront d'autres robots et qui échapperont totalement à l'homme initial, en fait.
Alors c'est
scénario de science-fiction, là.
C'est un scénario de science-fiction. Espérons que l'on n'arrive pas jusque-là. Et c'est tout l'enjeu, je dirais, de la réflexion que je voudrais que se fasse tout le monde. N'allons pas jusque-là. Et gardons, j'irais jusqu'au bout, le contrôle du bouton off.
Mais est-ce que c'est possible dans la mesure où on est engagé dans une logique qui conduit à cela ? Vous savez très bien, vous, la scientifique, vous êtes beaucoup mieux placée que moi pour savoir qu'une fois qu'une logique technologique, scientifique est à l'œuvre, on ne l'arrête plus. Et
oui,
en mouvement,
vrai.
On n'arrête plus.
Oui, on ne l'arrête plus.
Surtout au moment où les politiques et les États, la puissance publique, entre guillemets, est aux abonnés absents.
Peut-être faut-il faire confiance, je dirais encore, à la nature humaine qui a subi quand même depuis le début beaucoup de révolutions et beaucoup de drames. Et de grosses sociétés américaines y ont déjà pensé et pensent déjà à créer ce qu'ils ont appelé un bouton rouge. Et il y a une pétition qui, en juillet 2015... a été signé par trois personnalités du transhumanisme qui sont Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk, le patron de Tesla, pour arrêter les développements, par exemple, des drones tueurs. Donc il y a, même parmi les transhumains, une prise de conscience.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors dans ce livre, dans les chapitres consacrés aux critiques adressées au transhumanisme, vous parlez évidemment des religions, on ne va pas entrer dans le détail, les religions sont hostiles
au transhumanisme. Les religions, alors surtout les monothéistes, religions monothéistes sont forcément hostiles, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc là, je crois que quand on rentre dans le domaine de la foi, vous avez la foi ou vous ne l'avez pas. Là, le dialogue est difficile. On peut juste dire qu'entre les transhumains peut-être et les religieux, il y a trois choses en commun qui sont de fuir la mort, de fuir la condition humaine et de guérir les souffrances. En revanche, les transhumains, c'est ici et maintenant. Et pour les trois religions monothéistes, cela doit passer par Dieu. Donc il est difficile de s'entendre sur... Sur le résultat.
Béatrice, je vous sais couturier, vous dites aussi dans votre livre qu'il faut un petit peu se décentrer, changer de perspective. Parce que vous dites que là, les critiques adressées souvent à ce transhumanisme viennent de l'Occident, qui met en avant la valeur de l'individu, du bien-être personnel. Vous vous dites que sur d'autres continents, je vous cite, au contraire, comme l'Afrique et l'Asie, l'individu compte moins en lui-même, il est l'élément d'une collectivité à laquelle il doit se soumettre. Ça veut dire quoi, ça ?
Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on parle, je dirais, d'éthique, par exemple, ou de morale, cela est tout à fait relatif à un pays, une culture, des habitudes, une religion. Et ce n'est en aucun cas quelque chose qui est prédéfini. Donc, cela veut dire aussi que c'est quelque chose qui peut changer. Par exemple, en Chine, qui est un pays qui n'a rien à voir avec nous et où les droits de l'homme sont très éloignés de ce qui peut se passer en France, eh bien, ils sont en train de sélectionner les plus gros QI, quotient intellectuel, qui existent sur le territoire chinois. Ils examinent tout leur génie génétique et ils font la sélection des meilleurs pour essayer de voir combien de petits génies il pourrait faire et quel est le gène, je dirais, de la meilleure intelligence qui existe. Ça serait absolument interdit chez nous, mais pas chez eux. Donc, autre culture, autre pays, autre règle, en quelque sorte.
Mais est-ce que ces transhumanistes dont on parle, qui sont encore une fois tous ces scientifiques, ces industriels qui gravitent en Californie dans des laboratoires, qui travaillent, qui font avancer la science qu'on approuve ou pas, réfléchissent aussi, mais de façon très publique, très efficace, à l'éthique de tout ça. Ou alors, est-ce qu'il ne s'agit que d'une démarche scientifique, d'une marche en avant, qui laisse de côté les questions éthiques, voire même métaphysiques ?
Alors, c'est incontestablement une marche en avant technique. Mais derrière cela, il y a une réflexion qui se veut éthique et une réflexion qui essaye d'imaginer quand même toutes les causes, je dirais, un peu extrêmes. Et du reste, Monsieur Obama vient de créer une sous-commission dans laquelle il a mis quelques dirigeants de ces grosses sociétés intellectuelles pour réfléchir sur tous les problèmes que pourrait poser, par exemple, une intelligence artificielle forte, bien entendu, et il va, et ça c'est très nouveau, ouvrir des débats publics. Donc, bien sûr, ça vient encore des États-Unis, mais je crois que c'est peut-être un début de prise de conscience de tous les risques que cela peut entraîner. Parce que ce que l'on voit actuellement, c'est que de temps en temps, vous avez les réponses avant même d'avoir posé les questions, en quelque sorte. Ça va tellement vite.
Il y a un pays qui est étrangement absent dans votre livre. En tout cas, vous l'épinglez quand vous en parlez, c'est la France.
Oui, je l'épingle un petit peu parce que peut-être je suis sur le territoire français. Je suis sensible à cette question du transhumanisme. Comme je vous l'ai dit, ce mot, je ne le connaissais pas, mais je m'aperçois que tout le monde, en fait, est pour ce qu'il apporte. Je vois tout le monde utiliser son téléphone portable. Je vois la société s'engouffrer sans réfléchir à ce qu'elle fait sur toutes les dérives possibles et trouver certaines choses fort agréables, alors que peut-être elles ont des conséquences terribles. Et derrière cela, il n'y a pas de réflexion. On se pose très peu la question des conséquences. Et je crois même, comme le disait entre guillemets très méchamment Luc Ferry, que si on faisait une dictée au sein de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas un sur deux qui saurait définir le transhumanisme.
Mais on a l'impression que vous partagez l'avis de ceux qui considèrent qu'en France, il y a un rejet, voire une haine de la technologie, avec cette critique toujours mise en avant du principe de précaution.
Oui, parce que les lois éthiques françaises protège l'être humain. Ça, c'est indéniable. Mais je crois, et pour rester très simple, que le dangereux de la situation est que maintenant, tout ce qui se passe est mondial et que plus personne n'a peur de traverser une frontière pour aller se faire faire ailleurs ce que ne peut pas lui donner la France. Alors jusqu'à temps, sera-t-on capable, je dirais, de préserver plus ou moins nos frontières, cette éthique qui n'est absolument pas critiquable, bien au contraire, mais qui, je pense, demande à évoluer, à s'ouvrir, ou du moins à discuter, et de voir ce qui est possible et pas possible. Vous savez, l'éthique, c'est en quelque sorte la mise en commun, je dirais, de problématiques autour de plusieurs personnes, qu'elles soient politiques, économiques, de plusieurs religions également, et d'essayer de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. Alors ça, c'est bien, c'est beaucoup de discussions, mais il faudrait arriver à un petit peu plus de concret.
Oui.
Et c'est ça que je trouve qu'il manque fondamentalement dans la réflexion éthique, puisque l'on en parlait, mais surtout politique. Parce que ce sont les politiques qui vous dirigent.
Alors que la question des robots, par exemple, est une question très, très actuelle, déjà. On s'interroge déjà sur les relations entre un être humain et un robot. C'est plus l'animal de compagnie, c'est le robot de compagnie. Ça commence à poser des problèmes redoutables.
La question du robot commence à se poser.
Parce le robot que considéré comme une personne.
Surtout le robot considéré comme un instrument qui enregistre quelque chose de vous ou de votre quotidien. Alors, je m'explique. Il ne s'agit pas effectivement du robot qui hache vos légumes. Là, on parle plus du robot, par exemple, qui va intervenir dans l'aide à la personne. Ce robot-là, et ils vont être de plus en plus perfectionnés, vous écoute, vous répond, vous enregistre. Alors, plusieurs questions se posent. Il vous enregistre. Qui centralise vos données? Qui dirige ces réponses? Est-ce qu'il va falloir créer et donner aux constructeurs de ces robots des normes, par exemple, des normes éthiques? Et ensuite, la grande question derrière cela, c'est que fait-on de toutes ces données qui sont enregistrées sur vous, sur ce que vous dites, sur ce qui se passe chez vous, sur votre quotidien, où est-ce que cela va, qui en fait quoi et comment cela est redistribué.
Vous vous rendez compte de l'importance des questions que vous soulevez aujourd'hui?
Mais elles sont fondamentales. Et ensuite, au niveau éthique, et c'est pour cela que certaines personnes commencent à travailler sur le droit des robots. Vous avez entendu certainement parler de Monsieur Bensoussan, qui est avocat, et qui commence à travailler sur un droit des robots. Par exemple, ce robot qui aura toutes vos informations, est-ce qu'on a le droit de le démanteler le jour où ça ne vous intéressera plus? Est-ce qu'on a le droit de le mettre à la poubelle?
Oui.
À ce moment-là, que deviendront toutes ces informations? Si vous voulez, il fait un parallèle entre l'animal qui a aussi ses droits, peut-être depuis pas très longtemps,
mais qui a
ses droits par rapport à l'homme. Oui. L'enfant a des droits qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un homme adulte. On a fait le droit des animaux. Pourquoi n'y aurait-il pas maintenant le droit des robots, avec tout ce qu'il va assimiler et emmagasiner? Ça, c'est des questions et des nouvelles questions éthiques. Et puis, il y aura aussi forcément des questions de droit. Alors, je vous donne un exemple. Pour l'instant, vous blessez quelqu'un avec votre main. Pour l'instant, le droit règle cette question tout à fait correctement. Vous prenez un crayon et vous abîmez l'œil de quelqu'un. Cette question est également résolue. Mais lorsque vous aurez un bras ionique qui aura abîmé ou déchiré une partie du visage de quelqu'un, qui sera responsable? Le constructeur? Vous? Pour l'instant, toutes ces questions ne sont pas résolues.
Oui.
Et là, il faudrait aller vite et travailler dans ce sens. Et ça, c'est des vraies questions et des questions actuelles. Je pense que la Commission européenne commence à travailler sur le problème des robots. Mais c'est long. Et plus on est à s'occuper de ces questions, je pense plus les performances sont importantes.
Et pendant ce temps-là, la technique, la technologie, la science continue.
Elle continue. elle continue et déverse tout son lot et de dérives et de bonnes choses. Parce que n'oublions pas quand même les bonnes choses.
Bien sûr, bien sûr. Merci Béatrice Jousset-Couturier, merci pour votre livre qui s'intitule « Le transhumanisme », préface de Luc Ferry. Faut-il avoir peur de l'avenir ? C'est la question que vous posez effectivement dans le livre. C'est une vieille question, mais là qui prend vraiment une actualité brûlante.
Merci à vous.
Votre livre s'intitule donc « Le transhumanisme », une semaine d'actualité réalisée bien sûr par Vanessa Rovansky, qui est bien humaine, elle. Écrivez-nous à l'adresse suivante.
Idée. Au pluriel, @rfi.fr.
Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Appelez-nous.